Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Lève les bras en l'air, comme pour attraper tout cela. Un ciel plein d'étoiles. Il dit tout haut, François, c'est beau, comme un ciel d'été étoilé. Il se retourne et voit François derrière lui, qui lui sourit. François s'approche et prend l'enfant par l'épaule. Il marche lentement. François, toujours rien que nous deux, dit Yves. François s'arrête, prend la main d'Yves. Il la garde dans sa main et le regarde. Oui, Yves, rien que nous deux. Il sourit. une voix lui dit « Plus tard, oui, plus tard, pour le moment, soyons heureux. » Une jeune fille court derrière eux, c'est Odile. « François, François, Yves !» François et Yves se retournent et s'arrêtent. Elle s'approche. « Vous nous quittez déjà ? Béatrice aurait voulu vous présenter le gars de la radio. » François fait non de la tête. « Non, merci. Nous sommes fatigués. Nous rentrons. » Une voix lui dit « Plus tard. Oui, plus tard. » Odile est triste. « Tu partais comme ça sans lui dire au revoir ? Pardonne-moi. Mais je n'ai pas fait exprès. » Il l'embrasse. Yves aussi. Ils ont tous deux penauds. Je ferais ramener ta sœur. François est un peu triste et a l'impression d'avoir agi comme un goujat. Tant pis, la vie est si courte. Ils suivent le chemin, la main dans la main. Tu sais, François, à Tahiti, le ciel est tout aussi étoilé, mais en plus, il y fait doux. Les soirées sont si douces que les gens vont s'y baigner. Tu regrettes ton pays? Non, je suis bien. Je suis avec toi. Tu me protèges, c'est bien. Mais quelque chose me chagrine. Quoi? La rentrée, les cours et tout. Nous aurons encore le temps d'y penser. 15 jours, tu sais. Oui, 15 jours, dit Yves en soupirant. Et ton père te manque pas? Le regard d'Yves s'assombrit. Non, pas vraiment. Je ne le voyais que très peu. François regarde le visage d'Yves sous le reflet de la lune. Il lui donne un baiser sur la joue et lui dit « Viens, avant d'aller nous coucher, nous allons nous allonger au bord du lac. » Yves est allongé sur l'herbe, François le couvre de son corps. François sent l'humidité, l'herbe est mouillée. Tu veux te lever? Non. François l'embrasse. Il est doux et chaud. Il repose sa tête sur sa poitrine. C'est doux et chaud, il dit tout bas. Toujours, toujours. François est dans sa chambre. Sa sœur entre. Tu es couché? Je voulais te dire, François, c'est que tu t'es comporté d'une façon très mal. Tu es très mal conduit ce soir. François ne lui dit rien. Il regarde sa sœur. Elle marche de long en large, les mains dans le dos. Tu te rends compte, Odile et Béatrice, ont la gentillesse de nous inviter, et toi et ton ami, tiens, celui-là, quel drôle de type. Tu as vu comme il s'est comporté? Que doivent penser mes amis? Non, ça ne peut plus durer, François. Tu ne vis que pour lui. Tu ne vois que lui. Et tu te fais faire n'importe quoi. Tu ne vois rien. Tu ne t'occupes de rien. Tu es dans tes rêves. elle lui fait face. T'es-tu seulement rendu compte que maman avait changé ? François Roger dit. Maman ? Oui, maman. Elle a maigri, mélancolique. Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Elle voit François, l'air songeur, qui se ronge les ongles. S'approche de lui, s'assoit près de lui, en lui mettant la main sur l'épaule et lui dit « Ne sois pas triste, mais ne reste pas toujours dans tes rêves. Est-ce que tu crois qu'Yves est digne d'une amitié, d'un amour aussi fort ? Moi, je le trouve niais et très quelconque. La preuve ce soir. Allez. Il te fait faire une fausse route. Tu verras dans 10 ans. » Elle l'embrasse sur la joue et sort. François est dans son lit. Il dort, mais son sommeil est troublé par un bruit étrange. Quelque chose qui tape, tape, tape. Il n'arrive pas à se réveiller pour savoir ce que c'est. Il aimerait bien ouvrir les yeux, mais il a tellement sommeil, sommeil, sommeil. Sommeil, tellement sommeil. Le lendemain matin, vers les 9 heures, François se réveille. Ses premières forcées vont vers sa mère qu'il aime beaucoup et qui lui ressemble un peu. Elle est rêveuse, mélancolique, comme son fils. Pour elle, les sentiments priment sur tout. Passe des journées entières à rêver, assis sur une chaise longue devant la fenêtre, à regarder le paysage et les nuages passer. François se lève, met sa robe de chambre, d'aller dans la salle de bain, il va frapper à la porte de la chambre de sa mère.
Entrez.
Elle est allongée sur son lit, les couvertures, dessus les couvertures. Le lit était déjà fait. Elle porte une chemise de nuit longue, en soie blanche. Les cheveux sont mi-longs et blonds. Ils ont été coiffés. La fenêtre ouverte, mais les rideaux ont été fermés. L'air du dehors les fait bouger.
François, que veux-tu ? Tu as besoin de quelque chose ?
François s'approche de lui. Tout doucement, il voit que son visage a maigri, que ses yeux brillent comme si elle avait de la fièvre, mais il sait que c'est de la drogue. Elle recommence. Cela ne finira donc jamais. Pourquoi ce refus du réel? De toute façon, oui, de toute façon, il n'a pas en lui de leçon à rendre. Lui aussi refuse le réel.
Bonjour maman.
Il est tout près d'elle et l'embrasse, tout en respirant son parfum, un parfum du matin frais et doux.
Non maman, j'ai rien à te demander, si ce n'est d'avoir de tes nouvelles.
Madame de Boissol lui sourit.
Je te remercie, François. Je me sens très bien.
Seulement, je suis un peu lasse, comme toujours. Mais autrement, cela peut aller. T'as encore les yeux qui pétillent. Que veux-tu? Cela me calme. Tu as aussi maigri, mère. Elle hausse ses épaules. J'ai gardé appétit ce matin. C'est tout juste si je peux avaler un tout petit bout de toast beurré. Mais, comme tu vois, je me porte bien. L'air de la montagne, la fenêtre reste jour et nuit ouverte. Cela me fait du bien. Elle le regarde bien et dit, tu as grandi, on dirait presque un jeune homme. Oui, on dirait presque un jeune homme maintenant. François rougit, il sait qu'il se transforme. Et cela l'attriste beaucoup. Il a peur de perdre le monde de l'enfance. Celui des adultes lui fait peur et horreur. Elisabeth Boissol regarde son fils avec fierté et lui dit « À la rentrée, tu auras sûrement beaucoup de flirts. » Ne rougis pas. Tu sais, ce sera très drôle. Oui, moi aussi, à ton âge, j'avais beaucoup de succès. Hier au soir, il paraît que ça ne s'est pas très bien passé. Ta sœur est furieuse. Ton Yves ne sait pas se comporter dans le monde. Et puis je trouve qu'il est un peu jeune pour toi. Je ne veux bien que vous voyez et que vous soyez amis, mais... Ne sois pas tout le temps avec lui. Ne sois pas tout le temps avec toi. Cela risquerait de te nuire. François rougit et ne dit rien. Le monde, il s'en fout du moment qu'il a Yves. Oui, il s'en fout. Maintenant, laisse-moi. J'ai besoin d'être seule. Maman, ça ne va pas? Si, ça va, dit-elle en tournant la tête de l'autre côté. François se retire sur la pointe des pieds. François prend son petit déjeuner avec sa sœur et Yves dans la salle à manger. Je viens de voir maman. Tu as raison. Elle n'est pas bien. Ses yeux sont lumineux. Ils pétillent. Oui, je sais, dit Patricia. François lui demande. Une tartine beurrée, s'il te plaît. Et demande. Pourquoi est-elle dans cet état? Il faut qu'il y ait quelque chose. Non, je ne vois pas. François demande encore. Et papa? Oh, papa, il ne voit rien. Toujours dans ses affaires. Au fait, l'oncle n'est pas là aujourd'hui. Il a pris le car pour aller à Moutier, vers les libraires. Et toi, que fais-tu ce matin? Nous allons faire une promenade. François et Yves sont seuls sur un chemin de montagne. Le ciel est bleu, il fait doux. François parle. Tu sais, avant de te connaître, j'avais personne, pas d'amis. Pourtant, je souhaitais en avoir un frère avec qui je puisse tout dire. Pendant très longtemps, je ne réalisais pas compte que je préférais. Enfin, disons, être près des garçons. Je ne savais pas que l'on puisse aimer d'amour Depuis que je te connais, j'en suis fier. Aimer un être comme toi, c'est la chose la plus belle qui soit. Donne un baiser sur la joue d'Yves. Moi, d'Yves, je ne pose pas de questions à tout ça. Je me sens extrêmement seul. Ben, je me sentais extrêmement seul. Et j'avais besoin. C'est quelqu'un sur qui je puisse compter, tu comprends? Oui, sur quelqu'un sur qui je puisse compter. Françoise appelle son frère. François, viens. Une minute. François s'approche de sa sœur. Elle le mène au salon. Mère n'est pas bien. Ce matin, elle a reçu un télégramme qui a mis en tous ses états. Non, ne sois pas triste. Père est auprès d'elle. J'ai été obligé de le prévenir. François bouillonne et ne sait que faire. Quel est ce télégramme? Je ne sais pas. La maison est silencieuse. François, Yves et Patricia sont au salon. Ils sont tous assis sur le canapé. François tient la main d'Yves dans la sienne. Monsieur de Boisseul est dans la chambre de sa femme. Il est assis tout près du lit, lui tient la main. Sa femme est allongée, les yeux rouges, les cheveux défaits. Sa main droite froisse sur sa poitrine un morceau de papier, ses télégrammes.
Voyons. Elisabeth, calmez-vous. Pensez aux enfants, à la famille. Voyez, je ne vous parle pas de moi. Je sais que vous ne m'aimez pas. Moi, je vous aime. Qu'il soit mort, c'est une grosse perte pour vous. Je le comprends. Une personne aimée qui s'en va, c'est terrible. Et cela aussi est un bien. Cela vous permettra de remettre les pieds sur les terres, de ne pas passer votre temps à attendre des lettres d'un amour impossible. Après votre chagrin, vous verrez mieux. Et vous saurez mieux. Vous verrez mieux ce qui vous entoure. Un amour vrai, fort et près de vous.
Se tait, puis reprend doucement.
Je vous aime tellement. Je vous ai déjà démontré mon amour en permettant que vous en aimiez un autre. Je permets encore que vous portiez son deuil. Je fais tout ça par amour pour vous.
Et le ton plus haut.
Mais remettez-vous, pensez à votre famille.
Il l'embrasse sur le front et sort de la chambre pour rejoindre ses enfants au salon. Ils sont au salon. Ils attendent des nouvelles, se lèvent et leur dit
faudra laisser votre mère en paix. Elle a reçu une très mauvaise nouvelle.
François dort. Du fond de son sommeil, il entend des coups. Des coups, l'on tape, l'on tape. Mais cette fois, il se réveille en sursaut. Il entend toujours les coups. Essaye de voir d'où ça provient. Oui, derrière la porte, dans le couloir. Se lève d'un bond. Tout doucement, ouvre la porte. Et là, il voit, derrière, par la porte entrebâillée, effrayé son oncle, qui fait les 100 pas. Derrière la porte, son oncle ne s'est aperçu de rien. Il referme la porte. La ferme avec la targette. François se demande pourquoi son oncle passe la nuit à marcher devant sa porte, la porte de sa chambre. Retourne se coucher. Lendemain, la mère est toujours allongée et plongée dans son chagrin. François est sorti avec sa sœur faire des courses. Il est seul au salon. Il lit un Tintin. Il porte un short anglais qui le serre un peu. Ça le gêne entre les jambes, ce qu'il force à tirer de temps en temps sur le tissu. Entre dans la pièce, l'oncle. Il le regarde, maussade. L'enfant fait le geste de se lever. L'oncle lui fait signe de ne pas le faire.
Non, reste, tu me tiendras compagnie.
Il s'assoit en face de l'enfant. Elle observe, en osant les épaules, et dit :
Et dire. Avec ton côté angélique, ça m'y touche. D'ailleurs, vous êtes tous comme ça à cet âge. Mais moi, je vous ai observé. Je sais bien qui vous êtes.
Il se penche vers l'enfant et met la main sur ses genoux. Il sursaute, lâche son livre et se lève d'un bond. Et court pour sortir de la pièce. L'oncle court derrière lui. Elle lui crie :
Vous êtes comme des petits chats. Vous aimez le jeu et les caresses.
Yves retourne à sa chambre pour se réfugier.
Oui, pour se réfugier. Il a fermé la porte. Mais il s'est aperçu trop tard que la clé se trouvait à l'extérieur de la pièce. Se plaque contre le mur de la porte. Il a les jambes tremblantes. Tout d'un coup, il ouvre les yeux et entend la clé dans la serrure. Oui, il a entendu la clé. Dans la serrure.
Oui, dans la serrure. La porte est fermée.
Comme ça, tu ne pourras plus le rejoindre.
Yves n'a plus peur. La colère, la rage s'emparent de son esprit. Il se met à hurler et taper des poings sur la porte. Ouvre-moi, 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 ouvre-moi. Je vous en prie, ouvrez-moi, ouvrez-moi. Au bout d'un quart d'heure, il s'arrête, épuisé, en larmes, s'assoit à terre, le dos contre le mur. François et Patricia reviennent des courses. Patricia ne reste pas. Elle pose le panier et va faire une autre course. François cherche Yves. Il voit l'oncle au salon. Oui. Il voit l'oncle au salon. Il est debout devant la fenêtre. Se retourne à l'arrivée de François.
J'ai peu nu, Yves. Il était impossible. J'ai enfermé dans sa chambre. J'ai la clé dans ma poche.
François furieux serre les paumes. Qu'a-t-il fait?
Je viens de te le dire.
François s'approche de son oncle. L'oncle reste froid. François bouillonne. Pouvez-vous me donner la clé, s'il vous plaît? Yves est notre invité. Il a le droit à certains égards.
Non, je te la donnerai pas,
dit l'oncle d'une voix calme. Et pourquoi? François est de plus en plus furieux.
C'est assez.
Vous me punissez, moi. Ce qui touche Yves me touche aussi.
Je sais. Alors, un compromis.
L'oncle s'approche de François. Son visage est tout près. Tout près du sien. Il lui met la main au dos. François frissonne. L'oncle est en sueur. Il lui dit à l'oreille.
Sois gentil avec moi. Je t'en supplie, mon petit François.
La main de l'oncle, qui ne sait plus ce qu'il fait, descend de plus en plus bas jusqu'à la ceinture. François, à chaud, la main, le souffle de son oncle dans son oreille. Ça lui donne la nausée, se dégage et se sauve en courant vers la porte. Va vers la chambre d'Yves. Il a les larmes aux yeux, les nerfs qui craquent, tremblant de tout son corps. Il crie en tapant du pied, du poing sur la porte. Yves, Yves, tu es là? Yves pleure. Oui, François, où je t'en prie? François se retourne. L'oncle est derrière lui. Il se penche. François tend la main et dit tout bas.
Tenez-moi la clé ou je dis tout à mes parents.
L'oncle sourit, dit.
Ils te croiront pas.
François sourit lui aussi et répond. Si, ils me croiront. Ils ont vu la photographie qui se trouve dans les liaisons dangereuses. L'oncle blêmit. Il sort la clé de sa poche, l'attend à François, puis se retire. Suit le couloir. Patricia, en suivant le couloir, il rencontra Suisra qui revient des courses. Il sent qu'elle a tout attendu. François ouvre la porte. Et prend Yves dans ses bras. Il le coupe de baisers et le porte sur le lit. Yves est encore en pleurs.
Je n'ai rien, mon petit. Je n'ai rien.
Il sort de sa poche une lettre.
Tiens, c'est pour toi.
C'est une lettre de sa grand-mère. Yves la baise et la lit. La vieille dame se sent un peu seule et a hâte de voir son petit. Le père a écrit. Il a pris des galons et ne peut toujours pas s'occuper de son enfant chéri. Durant le repas du soir, l'oncle n'est pas là. Le père est avec ses enfants et Yves. Il leur dit que son frère a dû prendre un congé pour affaires urgentes, mais qu'il reviendra sûrement. L'état de la mère empire. Les vacances finissent. Les jours sont plus courts. Et oui, les vacances sont finies, tristes sous la pluie. La mer. Pleure. Elle est assise à côté de son mari qui conduit. Elle pleure toujours, durant tout le voyage, elle pleure. Enfin Lyon, la nuit sous la pluie. François raccompagne Yves chez lui. Yves tend la main pour sonner. François la lui prend. Attends une minute, je vais t'embrasser avant. François lui donne un baiser. Yves s'accroche à lui. Tu peux sonner maintenant. Yves sonne. La grand-mère ouvre la porte. Yves se blottit contre sa poitrine. « Mamie, comme je suis contente de te revoir !» La grand-mère lui caresse ses cheveux et lui donne un baiser sur la tête.
« Venez, ne restez pas dans le couloir, nous serons mieux dans le salon !»
De ses deux mains, elle prend par l'épaule Yves et François pour les conduire.
« Ces vacances se sont bien passées, mes enfants ?»
Il lui dit que oui, mais qu'il est heureux de la revoir. Thank you. Il est 10 heures du soir, les quais du Rhône sont déserts, les branches d'arbres font des traces d'ombre sur le sol. Il est seul à marcher. Le bruit de ses pas le réconforte et tout à la fois l'effraie. Car ça lui prouve que ce n'est pas un rêve. Pourquoi jouer les ombres? À quoi cela rime-t-il? Il ferait mieux, c'est de rentrer chez lui. Jouer les ombres parmi les ombres, pour chercher quoi? Il n'y a rien de rien. Et même s'il trouvait ce qu'il cherche, cela ne résoudrait rien. Non, bien au contraire. Cela lui apporterait la honte, la peur. Et puis, qui peut lui apporter quelque chose? Ce dont il a le plus besoin ne peut être pris, cela s'offre. Il a un peu froid. Le vent se lève. Demain, ce sera la pluie. Cette pensée toute bête, terre à terre, le fait sourire, un sourire amer. Toutes ces années perdues à cause de pensées comme celle-ci. Il marche d'un pas ferme et décidé. De toute façon, il ne trouvera rien. Et puis que faire? Aborder? Quelle honte! Cela prouverait qu'on le voit sur sa figure. Mon corps. Non, personne n'a jamais remarqué. Pourquoi? Et puis, pourquoi ce soir ce besoin? C'est vraiment stupide. Cela fait au moins... Non, en réalité, il n'a jamais cherché ce qu'il cherche ce soir. Avant de partir, il s'est regardé dans la glace. Il s'est trouvé laid, très laid. Un caillou le fait trébucher. Et dire qu'il n'a jamais passé une nuit avec une personne, seulement une seule nuit avec une personne, une nuit d'amour. À son âge, c'est un peu tard pour en avoir une. Oui. Et puis, non, l'on risquerait de se moquer de lui. Et puis, ce qui compte, pour eux, c'est l'argent. Avec de l'argent, on peut tout avoir. Non. On ne peut pas tout avoir. L'essentiel, on ne l'a pas. Tiens, lui est déjà arrivé là. Quelle heure est-il? Regarde sa montre, 23 heures. 23 heures seulement. Tant pis, il retourne sur ses pas. Lui aussi a besoin de plaisir. Et personne n'a rien à lui dire. Toute sa vie est restée droite. Ses mains tremble un peu, sa vie est troublée, sa vue est troublée, et quoi encore, ce qu'il ressent, il le ressent, à l'intérieur de lui-même, il est resté le même, il a 20 ans, a-t-il eu 20 ans, c'est le monde qui l'a empêché de les avoir. Toujours les autres. Ils lui ont tout gâché. Gâché sa vie. Et pourquoi ne peut-il pas avoir droit lui aussi au bonheur, au plaisir? Non, ne marche pas si vite. Je reviens vite au bout du quai, assez vite. Après, ce sera la fin. Tu rentreras amer, déçu. Non, ne va pas si vite. Tant que tu n'as pas fini ton parcours, tu peux garder l'espoir de quelque chose. Après, il sera trop tard. Oui, après il sera trop tard. Il s'arrête de marcher. Il est peut-être déjà trop tard. Quel âge déjà ? Non, il ne veut pas le savoir. Il se remet en marche. La nuit est plus sombre. Les lumières de la ville se font rares. Sa démarche est plus lourde. La figure, ses membres sont un peu raidis par la fraîcheur et l'humidité. Il lui vient à l'esprit un visage adolescent. S'arrête, regarde à terre, son âme est triste et reprend sa marche. D'une façon mécanique, il reprend sa marche. Il oublie pourquoi il marche. Sa tête est vide, triste. C'est à cause de cette image. Il sourit parce qu'une pensée lui est venue à l'esprit. Ce visage est celui de son ange gardien. Un ange gardien de plus. De toute une vie. Bonsoir, tu cherches quelqu'un? Il sursaute, sort de ses pensées, se retourne et voit un jeune homme d'une vingtaine d'années, pas très grand, mince, les cheveux mi-longs, bruns, le sourire aux lèvres, visage agréable. La chemise défaite montre une poitrine blanche et lisse. Une de ses mains est dans le pantalon du sous-vêtement et fait en sorte de mettre à jour jusqu'à la naissance du sexe, les poils du bas-ventre. Tout ça, c'est très provocant au milieu de tout ce blanc. Tu veux venir avec moi? Voilà ce dont il cherchait. Et maintenant qu'il l'a trouvé, il ne sait que faire. Et puis, en a-t-il encore envie?
Ça ne te plaît pas?
Il reste sur place, comme hypnotisé par cette main. Dans le sous-vêtement qui touche cette chose.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Il a chaud. Il veut être à 100 lieues d'ici. Il sursaut. Il aimerait bien partir, mais il ne peut pas, car il est hypnotisé par ce qu'il voit.
Bon, eh bien, au revoir.
Le jeune qui a vu son trouble fait mine de s'en aller. Il veut le forcer à prendre décision rapidement.
Bon, eh bien, au revoir.
Une panique s'empare de lui et sursaute.
Non, attends,
dit-il d'une voix très faible. Il a chaud et a parlé malgré lui. Le jeune se rapproche en souriant, sait qu'il a gagné. Il a toujours les mains dans le pantalon et d'une voix douce.
Il ne faut pas être timide. On va quelque part, à l'hôtel?
Non.
Il n'a pas dit non pour l'hôtel, mais non pour tout. Son regard reste fixé sur ses poils, saleté de désir. Pourquoi tout cela?
On va faire un tour à la campagne?
Non.
Il ne peut dire que non, et pourtant.
Sous les quais,
le jeune homme s'impatiente.
Allez, viens.
Il s'éloigne.
Viens.
Il descend les escaliers. Il le suit. Pourquoi?
Il ne sait pas.
Il ne peut pas faire autrement. Et pourtant quelque chose lui dit qu'il ne faut pas. Il y a danger. Oui, il le sait. Il le sait. Mais il faut suivre sa destinée. Et puis, s'il ne le faisait pas, ce serait terrible. Il le regretterait toute sa vie. En bas, c'est des voitures en stationnement. Le jeune et devant, et marche lentement en tournant la tête pour voir si on le suit. un coin d'ombre. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ? Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.